Chapitre 14e. Cloarec, après avoir passé une partie de la nuit à réfléchir sur son entretien avec Onésime, entra le matin chez sa fille. Il la trouvait levée, souriante, heureuse. Elle se jeta à son cou avec un redoublement de tendresse. « Eh bien, mon enfant, lui dit Cloarec, as-tu passé une bonne nuit ?»«
Excellente, mon père. J'ai fait des rêves d'or, car vous me portez bonheur jusque dans mon sommeil. »
« Voyons, mon enfant, ces beaux rêves, conte-les-moi.
Illusion ou réalité, je tiens à savoir tout ce qui te rend heureuse, » dit Cloarec,
cherchant une transition pour arriver à l'entretien qu'il voulait avoir avec Sabine au sujet d'Onésime.
« Allons, je t'écoute.
Quelques brillants châteaux en Espagne, quelques songes dignes des mille et une nuits.
Oh, père, je ne suis pas si ambitieuse, même en rêve. Mes désirs sont plus humbles.
Eh bien, ce songe.
Oh, mon Dieu, c'est bien simple, je rêvais que je passais ma vie avec vous. »
Il ne valait guère la peine de rêver pour cela, mon enfant.
Avec vous, et avec cette chère Suzanne.
Bon, mais c'est tout simple.
Et avec ce brave Le Goffin, qui vous est si attaché.
Et, dit Cloarec en remarquant une légère rougeur qui colora le gracieux visage de sa fille,
et c'est tout. J'oubliais. Tu oubliais quelqu'un, cette bonne petite Thérèse, sans doute?
Non, mon père, je n'avais pas songé à Thérèse.
Eh bien, cette personne oubliée, c'était
Monsieur Onésime.
Comment?
Monsieur Onésime, je ne comprends pas.
Dame, mon bon père, vous me demandez mon rêve, je vous le raconte.
Sans doute, mais enfin,
dans ce rêve, à quel titre Monsieur Onésime passait-il sa vie avec nous?
C'était tout simple, mon bon père, nous étions mariés.
Sabine prononça ces mots avec un accent à la fois si ingénu, si enjoué, que Cloarec ne put avec raison douter de la sincérité du récit de sa fille. Il se demanda s'il devait se féliciter ou non de ce rêve singulier. Aussi reprit-il avec une certaine anxiété.
« Ah, toi et Monsieur Onésime, vous étiez mariés ?»«
Oui, mon père. »«
Et j'avais consenti à ce mariage,
certainement puisque nous étions mariés. Mais mon rêve ne prenait que quelque temps après notre union. » Nous étions dans le petit salon d'en haut, tous trois assis sur le grand canapé, vous, mon bon père, au milieu de nous deux. Suzanne, près de la fenêtre, travaillait à son tricot tandis que Le Goffin, à genoux devant la cheminée, soufflait le feu. Et Suzanne, comme à son ordinaire, se moquait du pauvre homme. Vous, mon père, vous gardiez le silence depuis quelques moments. Soudain, prenant dans vos mains les mains de M. Onésime et les miennes, vous nous avez dit d'une voix toute émue, « Savez-vous, mes enfants, à quoi je pensais ?»«
Non, mon père, avons-nous dit, Monsieur Onésime et moi, car naturellement il vous appelait aussi son père. »«
Eh bien, avez-vous repris, je pensais qu'il n'existe pas sur la terre un homme plus heureux que moi. Avoir auprès de soi deux enfants qui s'adorent, deux anciens serviteurs ou plutôt deux vieux amis, et passer avec eux ainsi une vie paisible et fortunée, il faut encore et toujours remercier Dieu, mes enfants. » Et en disant cela, mon bon père, vos yeux étaient pleins de larmes. Alors Onésime et moi, nous vous avons serré dans nos bras en disant, car la même pensée nous venait,
« Oh oui, Dieu est bon pour nous, merci, merci à Dieu. »
Nous sommes restés ainsi un moment, tous trois embrassés, et puis je me suis éveillé, pleurant comme dans le rêve.
Cloarec ne put cacher les larmes qui lui vinrent aux yeux à ce naïf récit, et il dit à Sabine, «
En réalité, comme un songe, tu es et tu seras la meilleure et la plus tendre des filles. Mais dis-moi, il y a dans ton rêve quelque chose qui me surprend beaucoup.
Quoi donc?
Tu permets?
Je le crois bien, mon père.
Et qu'est-ce donc qui vous surprend si fort?
Ton mariage avec Onésime.
Vraiment?
Oui.
C'est singulier. Moi, j'ai trouvé cela si naturel que je n'en ai pas été étonné du tout.
D'abord, mon enfant...
Et cela n'est pas, je l'avoue, le plus grand inconvénient. Monsieur Onésime est sans fortune.
Mais bien des fois, vous m'avez dit, mon bon père, que tous ces voyages, pour votre commerce, toutes ces absences, dont je m'affligeais tant, avaient pour unique but de m'amasser une belle dot.
Sans doute.
Alors vous voyez bien que, dans mon rêve, Monsieur Onésime n'avait pas besoin de fortune.
Soit, pour un mariage en songe, l'égalité des biens n'est pas nécessaire.
Et dans les mariages, vrai, elle est donc indispensable.
Indispensable, non, mon enfant, mais du moins inconvenable. Enfin, passons à autre chose. Encore ? Oh, je ne suis pas au bout, mais, puisque tu permets... Allez, allez, bon père. Monsieur Onésime n'a pas d'état, et par conséquent pas de position sociale. Pauvre jeune homme, il n'en est que plus à plaindre. Qui pourrait lui faire un crime de son oisiveté forcée ? Est-ce le cœur, le bon vouloir, l'instruction, la capacité qui lui manque ? Non, sans doute. C'est cette fatale infirmité qui met obstacle à tout ce qu'il pourrait entreprendre. Tu as parfaitement raison, mon enfant. Cette fatale infirmité est un obstacle insurmontable qui, malheureusement, l'empêchera toujours de suivre une carrière quelconque, de se créer une position et même de se marier, si ce n'est en songe, bien entendu. Ici, mon bon père, à mon tour, je ne vous comprends plus. Vraiment ? Oh, mais plus du tout, du tout. Comment, mon enfant ? Tu ne comprends pas qu'il est impossible qu'une femme fasse jamais la folie de se marier avec un pauvre garçon à demi aveugle, qui voit à peine à 10 pas devant lui, qui serait toujours, pour ainsi dire, comme un enfant en tutelle ? Tu ne comprends pas qu'ainsi les rôles seraient intervertis, et qu'au lieu de protéger sa femme, comme tout homme doit le faire, M. Onésime devrait être protégé par la femme qui serait assez folle pour l'épouser ? N'est-il pas tout simple que celui qui peut protéger l'autre le protège ? Sans doute, mais ce rôle, ce devoir est celui de l'homme. Oui, quand il peut le remplir, mais quand il ne le peut pas, il appartient à la femme. S'il est assez folle, je le répète, mon enfant, pour s'exposer à une si triste existence. Folle ? Archi-folle ! Allons, ne fais pas tes 12 yeux si méchants. Voyons, père, écoutez-moi. Je t'écoute. Vous m'avez élevé avec une bonté adorable. Vous avez été au-devant de tous mes désirs. Vous m'avez entouré de tout le bien-être possible. Enfin, pour moi, vous vous êtes exposé à tous les ennuis de vos longs voyages de commerce, n'est-ce pas ? C'était pour moi non seulement un bonheur, mais un devoir. Un devoir. Le premier, le plus sacré de tous. De me protéger, d'être mon guide, mon soutien. L'on n'est père qu'à cette condition. Voilà où j'en voulais venir, dit Sabine avec une naïveté triomphante. Le rôle, le devoir du père est de protéger son enfant. Certainement. Maintenant, père, supposez que, dans l'un de vos voyages, vous ayez été aussi malheureux ou aussi maladroit que ce pauvre Le Goffin, et que, ce qu'au ciel ne plaise, grand Dieu, vous ayez par suite de je ne sais quel accident perdu la vue. Serais-je folle, archi-folle, parce que j'emploierais toutes les forces de mon intelligence et de mon cœur à tâcher de vous rendre ce que vous avez fait pour moi, et d'être à mon tour votre guide, votre soutien, votre protectrice ? Nos rôles seraient intervertis, comme vous dites, et cependant, quelle est la fille qui ne serait pas heureuse et fière de faire pour son père ce que je ferais pour vous ? Eh bien, ce dévouement d'une fille pour son père, pourquoi une femme ne l'aurait-elle pas pour son mari ? Ah ah, voyez-vous, j'étais bien sûr que vous n'auriez rien à répondre à cela, mon bon père. D'abord, cher et tendre enfant, je ne te réponds pas, parce que ce que tu me dis là m'émeut délicieusement et me prouve de nouveau la rare bonté de ton cœur, mais ne te hâte pas tant de triompher. Nous verrons bien. Tu vas sentir tout de suite que ta comparaison, si touchante qu'elle soit, n'est pas juste. J'admets que par suite d'événements fâcheux, une fille soit obligée de devenir le soutien, la protectrice de son père. Elle se dévoue à lui, c'est beau, c'est noble. Mais enfin, elle n'a pas choisi son père. Elle accomplit un devoir sacré, tandis que la femme, qui peut choisir son mari, serait, je le répète, ne me fais pas de 3 méchants yeux, serait folle, archi-folle, d'aller justement choisir pour mari une pauvre créature qui a justement besoin d'être entourée de la plus tendre sollicitude, s'écria Sabine en interrompant son père. Choisir ainsi, c'est faire acte de folie. Répétez-moi cela, mon bon père, je vous croirai. Oui, vous, si généreusement dévoué à votre enfant, vous, si compatissant pour ses faiblesses, vous qui pour elle avez accompli tous les sacrifices, dites-moi qu'il est insensé de mettre son bonheur à dévouer sa vie à un pauvre être que la destinée accable. Dites-moi qu'il est insensé de venir à lui par cela même que son infortune doit éloigner tout le monde de lui. Dites-moi cela, mon père, et je vous croirai. Non, ma noble et généreuse enfant, je ne dirai pas cela, je mentirai, s'écria Cloarec, entraîné par la généreuse animation de Sabine. Non, Je ne doute pas du bonheur divin que l'on puise dans le dévouement lorsqu'on se dévoue surtout pour une personne bien aimée. Non, je ne doute pas de l'attrait qu'éprouvent les âmes d'élite pour ce qui est à la fois souffrant, courageux et résigné. Vous voyez donc bien, bon père, mon rêve n'est pas si extraordinaire que vous le disiez, reprit la jeune fille en souriant, et j'ai, je l'espère, réponse à tout. Oh, tu es une rude jouteuse, et je m'avouerais tout à fait vaincu, ou plutôt convaincu, si tu pouvais répondre aussi victorieusement à une dernière objection. Je l'avais gardée en réserve, comme la plus forte. Voyons l'objection. J'en ferai justice, comme des autres. Sais-tu que tu es terrible, au moins? Oui, oui, riez, je vous attends, de pied ferme encore. Dis-moi, quand on pousse à ce point, le dévouement pour quelqu'un, c'est qu'on l'aime beaucoup, n'est-ce pas? Nécessairement. Et il faut admettre que ce quelqu'un aime beaucoup aussi, cela va sans dire. Qu'il aime corps et âme, que la présence de celle qui se dévoue si noblement pour lui le charme et l'enchante, qu'il éprouve enfin autant de bonheur à la voir qu'à l'entendre, car la contemplation du gracieux visage d'une épouse bien-aimée nous est aussi douce que la contemplation de ses mérites et de ses vertus. Eh bien, dans ton mariage, en rêve, ce qui me semble le plus étrange, c'est... Pourquoi vous interrompre, mon bon père? Tiens, pour mieux te rendre ma pensée, je vais te raconter un fait. Hier soir, selon ta recommandation, j'ai vu Onésime et... Oh, n'est-ce pas qu'il est impossible de ne pas s'intéresser à lui et de... D'accord, mais laisse-moi parler. J'ai fait naturellement causer M. Onésime, afin de juger un peu de son esprit, de ses sentiments. Or, avouez qu'il n'est pas de sentiments plus élevés que le sien, d'esprit plus juste, de caractère plus... Mais maudite petite bavarde, permets-moi donc d'achever. Somme toute, j'étais satisfait de ce jeune homme seulement. J'en étais sûr. Je vous l'avais bien dit. Sabine, Sabine. Pardon, bon père, je vous écoute. Nous avons donc assez longuement causé avec M. Onésime, et je ne sais plus comment cela est venu dans notre conversation. Je lui ai demandé, à propos de sa mauvaise vue, s'il voyait distinctement à quelques pas. Il m'a répondu que non, et qu'ainsi, par exemple, depuis qu'il était ici, il ne t'avait vu. Là, bien distinctement, bien complètement vu, qu'une seule fois, et c'était hier, lorsque tu as aidé Suzanne à panser la blessure qu'il avait à la main. Pauvre monsieur Onésime, c'est vrai. Car pour aider Suzanne, il m'a fallu m'approcher tout près de lui. Eh bien, s'il te faut tout dire, ce qui me paraît le plus inconcevable dans ton mariage en rêve, c'est un mari qui ne verrait jamais sa femme. Jamais? Il faudrait donc qu'il devint, hélas, tout à fait aveugle. D'accord, mais enfin... Il passerait toute sa vie auprès de sa femme sans jamais la voir, pour ainsi dire, que par accident. Eh bien, mon père, la part faite à ce qu'il y a de cruel dans une infirmité pareille, moi, je trouverais cela charmant. Voilà qui est un peu fort. Et je vous le prouverai. Je t'en défie, par exemple. Tenez, mon bon père. Je ne sais plus où j'ai lu qu'il n'y avait rien de plus sacrilège que de laisser toujours exposer à la vue les portraits destinés à vous rappeler des personnes aimées. Car parfois les yeux finissaient par tellement s'habituer à ces images que leur effet, au lieu d'être toujours vif et nouveau, allait ainsi en s'émoussant. Il y a du vrai dans cette observation, mais je ne devine pas le profit que tu en peux tirer pour ta cause. Si, au contraire, on renferme ces portraits dans un cadre avant tout, je suppose, et que l'on ne l'ouvre que lorsqu'on se sent disposé à contempler avec recueillement une image chérie. L'impression qu'elle vous cause est d'autant plus puissante qu'elle a été plus ménagée, n'est-ce pas, bon père? Parfaitement raisonné, mademoiselle. Ensuite, eh bien, vous aimant comme je vous aime, mon bon père, je serai, je suppose, dans la position de M. Onésime, que je me consolerai en me disant, toutes les fois que j'embrasserai mon père, la vue de sa bienveillante et noble figure sera pour moi comme une apparition ineffable. Puis ses traits se voileront, pour ainsi dire, de nouveau à mes regards, mais du moins je le saurai là et... Tais-toi, perfide, tu me donnerais envie de te voir myope. Ah, j'étais bien sûr de vous convaincre. Un moment, je ne me rends pas encore. Oh, quel tenace adversaire vous faites, mon bon père. J'admets que notre myope, le myope de notre rêve, se console ainsi. J'admets qu'il trouve même une sorte de charme toujours nouveau dans ces apparitions de l'objet aimé. J'admets enfin qu'il en soit de l'original du plus charmant portrait du monde comme du portrait lui-même. Et que, sans se blaser pour cela sur la vue incessante de l'objet aimé, le regard finisse peut-être par trop s'habituer à être ravi. C'était absolument ma pensée. Et c'était justement là où je t'attendais et où je t'arrête, triomphante, raisonneuse. C'est un horrible guet-apens que je te tendais, glorieuse. Voyons ce guet-apens, mon bon père. S'il en est ainsi, le myope sera parfaitement partagé, lui, mais l'autre, c'est-à-dire le clairvoyant, ou plutôt la clairvoyante. Elle n'aurait donc pour ressource que de fermer les yeux, afin de se ménager à son tour des apparitions et de ne pas s'habituer à être trop continuellement enchantée. Comment ? C'est sérieusement que vous me faites cette objection ? Parbleu, c'est ma meilleure. En vérité, mon père, j'ai trop beau jeu, vraiment. Mais certainement, car enfin, si je me suis mise un instant à la place de M. Onésime, ce n'est pas du tout une raison pour que je renonce à mes excellents yeux. Je ne crains pas que ma vue se blase jamais à regarder mon mari. Je suis sûr du contraire. J'en prends à témoin le bonheur que j'ai toujours à vous voir, mon bon père. Quoique dans la prévision sans doute de mes idées sur les rares apparitions, vous vous soyez bien souvent dérobé à mes regards par vos fréquents voyages. Mais il n'importe. Allez, père. Je resterai pendant 100 ans mes yeux sur vos yeux, que je ne me rassasirai pas de lire sur vos nobles traits toute votre tendresse pour moi. Et Sabine embrassa tendrement Yvon. Cher, cher enfant, dit Clorec, en répondant aux caresses de sa fille. Tu as pour toi la logique de l'affection et la raison du cœur. Comment veux-tu que je lutte contre cela? Allons, je m'avoue humblement vaincu. J'avoue qu'après tout, ton rêve n'est pas si déraisonnable, et que l'on pourrait, à la rigueur, épouser un myope, lorsqu'on l'aime et qu'il est rempli de cœur et de dévouement. Ah, bon père, dit vivement Sabine, en pressant les mains de Cloarec entre les siennes. Seulement, reprit Yvon, malgré ta façon poétique d'envisager la mauvaise vue, je préférerais que ce pauvre Onésime, mais au fait, j'y songe. À quoi donc, pensez-vous, mon père? J'ai beaucoup connu, dans les voyages que j'ai faits pour mon commerce, un jeune chirurgien d'une grande habileté. Il n'avait par parenthèse qu'un défaut, une gourmandise effrénée. Il est allé s'établir à Paris, où sa réputation a grandi, et à cette heure, il est l'une des célébrités du monde savant. Peut-être trouverait-il dans sa science le moyen de rendre la vue à ce pauvre garçon. Grand Dieu ! S'écria Sabine ravie. Il y aurait quelque espoir ? Je n'en sais rien, mon enfant, mais je connais plusieurs cures merveilleuses du docteur Gasterini. Je lui écrirai aujourd'hui même, et nous avons été assez liés pour que je puisse lui demander de venir voir Onésime. Si toutefois, ce célèbre docteur peut abandonner pendant 24 heures sa nombreuse clientèle. Ah, mon père, que de bonté, et puis aussi, que d'espérance, car enfin, l'intérêt que vous portez à M. Onésime, le bien que vous pensez de lui, voyons, achève. Vous songez à le guérir, parce que vous ne voudriez peut-être pas avoir un myope pour gendre, dit Sabine en rougissant et baissant les yeux avec embarras. Diable, comme tu y vas! Oh, je n'accorde pas si vite mon consentement. Allons, rassure-toi, je ne te dis pas tout à fait non, et la meilleure preuve que je puisse te donner de mon bon vouloir, c'est que... Embrasse-moi encore, dit Yvon. Puis, se dirigeant vers la porte, il ajouta, attends-moi ici, dans 1 heure. Vous sortez, mon père, pour une affaire très importante. Et vous ne m'en dites pas davantage, pas un mot de plus. Je suis un terrible homme, comme tu vois. À bientôt. Attends-moi, et ne t'impatiente pas trop. Cloarec, en sortant de chez Sabine, monta chez Onésime, et afin que leur conversation fût plus secrète et moins sujette à être troublée, il pria le jeune homme de l'accompagner dans une promenade qu'il voulait faire sur la grève avant déjeuner. Pendant l'absence d'Yvon, sa demeure recevait la visite d'un personnage aussi fâcheux qu'inattendu.